Une retraite au Colorado où il y avait 1200 personnes qui se sont inscrites pour aller le voir et il n'a pas pu venir parce qu'il était atteint de. Il avait une infection de la gorge et les médecins de Boston l'ont dit, non, tu n'y vas pas. Alors il était un peu triste, mais quand même pratiquant, le pratiquant qu'il est, il a pu lâcher prise. Il a juste écrit une belle lettre. Il dit, vous savez, cet instant devait arriver et il va arriver. Et je ne serai pas là, mais je serai là aussi. Et en fait, il n'a pas dit ça tout de suite, il a juste demandé aux organisateurs, à la communauté monastique, je vous laisse la décision, laissez-moi savoir ce que vous voulez faire. Mais je ne peux pas parce que mon médecin ne me permet pas d'y aller. Et les monastiques se sont rassemblés ensemble. Et ils étaient tristes, ils étaient inquiets, ils étaient. Ben, ce sont des humains, ils sont normaux, même s'ils n'ont pas de cheveux. Et la décision qu'ils ont prise et dont Thay est très fier, c'est que Thay nous a appris l'impermanence. Et nous a appris que cette journée allait arriver. Il n'est pas complètement mort, il est juste à l'hôpital, il ne peut pas venir. Et si nous voulons l'honorer, si nous voulons lui prouver que son enseignement est vrai et véritable, nous allons devoir le remplacer. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire ensemble. Et ils ont écrit ça à Thay, et Thay était très content. Et il a écrit donc à la communauté et aussi aux pratiquants, aux retraitants, pour dire apprenez à me voir dans ma communauté. Il y avait quelques personnes qui étaient un peu déçues, tristes, fâchées, enragées, et qui ont demandé des remboursements. Ben, ils l'ont eu, c'est normal. Mais 800 personnes sont restées. Et les monastiques leur ont demandé de les aider à manifester la présence de Thay dans la retraite. Et au bout de quelques heures, tout le monde a très bien vu que Thay était très présent, même sans sa forme physique. Alors, Thay, il se poursuit et se continue au-delà, en dehors de sa forme physique. Donc, si vous avez le goût de lire les témoignages des retraitants et des enseignants de la retraite, le livre c'est One Buddha is not enough. Et ce que j'ai entendu ici aujourd'hui avec le rapport des groupes, c'est exactement ça. Le Bouddha, c'est tout ça, et Thay, c'est tout ça aussi. Et c'est une réalisation merveilleuse. Et je suis très, très content de me le faire rappeler par ma Sangha, comment nous pouvons apprendre à regarder et à voir et à comprendre. Au-delà, en delà de nos schémas habituels de vision. Et c'est aussi l'enseignement du Sutra du Diamant. Alors, ceux qui sont avec nous depuis quelques années savent que nous suivons un cycle d'études et de pratiques, un cycle de 4 ans. Nous avons commencé il y a 2 ans. Avec l'étude des 16 respirations. Non, on a commencé avec les 4 nobles vérités et le chemin octuple. Nous avons ensuite appris les 16 respirations et les 4 établissements de la pleine conscience. Et cette année, nous sommes en train d'étudier le Sutra du Diamant. J'ai passé tout mon été avec, ben, tout le printemps aussi avec Lily pour dire comment est-ce qu'on peut enseigner le sutra du Dharma. Et il aurait pu le faire comme un cours de maîtrise, c'est-à-dire lire le sutra en entier et discuter, expliquer chaque mot et tout ça, mais on a trouvé que ce n'était pas la meilleure façon d'enseigner le sutra du Dharma, et que le sutra du Dharma pouvait être seulement réalisé et compris par l'étude de tout ce qui est non-sutra du Dharma. Et c'est la dialectique du sutra du Dharma, et c'est aussi une réalisation, et c'est la réalisation que je crois avoir entendue en travers des témoignages des familles. Si j'utilise la dialectique du sutra du Dharma, je pourrais résumer, ou bien je pourrais l'exprimer, ou bien résumer ce que j'ai entendu aujourd'hui des témoignages. C'est quoi le Bouddha? Le Bouddha, c'est tout ce qui est non-Bouddha. Et parce que tout ce qui est non-Bouddha est non-Bouddha, que c'est vraiment le Bouddha. Et un Bouddha ne peut être un Bouddha que s'il est complètement non-Bouddha, ou bien qu'il comprend tout ce qui est non-Bouddha. Et c'est cela la dialectique du diamant, du sutra du diamant. Et les premiers historiens, les premiers scolaires qui ont découvert le sutra du diamant, puis qui l'ont lu, ont dit que ça devait être un transcripteur ou bien un moine sous ou fou qui l'a écrit. Et tout ce qu'ils apprennent sont des fous qui apprennent d'un autre fou. Et c'est comme ça que ça s'est transmis. Alors, comme je ne voulais pas vous paraître comme un fou, j'ai choisi de ne pas le faire. Mais, en vous écoutant, en vous entendant, j'ai vu comment l'enseignement de Thay, ou la façon d'enseigner de Thay, était pertinent. Parce qu'on l'a tout réalisé, on l'a tout compris sans avoir à l'étudier. Et le sutra du diamant peut se résumer dans un mot très simple. Inter-être. Inter-being. Ceci est parce que cela est. Et ça renferme, ça contient toute l'essence et toute la sagesse et toute la crème et toute de ce que l'enseignement de Thay et du Bouddha peut être. This is because that is inter-being. Alors je vais vous parler de listes. Les listes de pratiques ou d'enseignements que nous avons suivis. Cette année, nous avons, pour étudier le sutra du diamant, nous avons commencé avec les sept facteurs d'éveil. Et le premier, c'était la pleine conscience. Ok, je m'excuse. La petite conscience. Robert est un pratiquant, je n'ose pas utiliser le mot, intelligent. Intelligent parce que c'est un médecin. Donc il sait comment adopter les traitements à la maladie. Il sait doser. Et il sait aussi que les doses de cheval, c'est bon pour les chevaux. Mais que comme on n'est pas des chevaux, ou des chevals, ou des juments, que ça prenait des doses mesurées. Alors donc, Robert, quand il parle de pleine conscience, dit, c'est quoi ton terme pour PC? PC, petite conscience ou un peu de conscience ou un peu plus conscience. Comment je m'en souviens? Pardon? Plus conscient. Okay. Et donc, prendre un enseignement, le comprendre, l'expérimenter, le tester, et comme médecin, savoir comment l'administrer. Alors prendre une petite dose, mettre beaucoup de chocolat et de sucre autour, un peu de couleur pour que ça ressemble à un M&M. Alors donc, c'est ça, je n'ai pas cette compétence, alors je vais juste vous réciter ce que j'ai appris, mais je n'ai pas fait cet exercice encore. Donc la pleine conscience. La pleine conscience, c'est cette capacité que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui nous permet de pouvoir nous arrêter, revenir à l'instant, afin de pouvoir voir et réaliser, comprendre tout ce qui est en train de se passer en nous et à l'intérieur de nous, et à l'extérieur de nous, autour de nous. Alors ça, c'est comme mon objectif très loin, c'est comme le gros PC. Et la façon d'y aller, notre maître, comme beaucoup d'autres maîtres, en ont sorti des petits outils. Et parmi les petits outils, le Bouddha a commencé déjà à nous en apprendre dans son temps. Et tous les maîtres qui ont suivi se sont ingéniés à trouver d'autres façons, puis d'autres moyens pour nous amener à cette chose-là. Alors, toutes les pratiques que nous avons faites à la maison de pleine conscience et au village des érables et au village des pruniers depuis les 25 dernières années, c'était juste ça, la pleine conscience. La pleine conscience qui commence par l'arrêt. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et tout d'un coup, je dis, hey, waouh, où est-ce que j'étais? Là, je reviens dans l'instant. Puis tout d'un coup, je réalise que, hey, c'est bien plus de fun d'être ici que d'être perdu dans mes choses. Et puis surtout, lorsque je suis pris dans la jalousie, la colère, l'envie, le désir, toutes ces choses-là, ça me consume, ça me fatigue et je deviens fou avec ces choses-là. Et tout d'un coup, en revenant, je me dis, waouh. Et ça se résume à j'inspire, je me calme, j'expire, je souris. Et c'est cela que nous avons appris à faire. Juste ça. Lorsque nous pratiquons la respiration consciente, lorsque nous pratiquons la marche méditative, lorsque nous sommes en train de manger, c'est toujours la pratique, l'arrêt, le retour. Et on s'aperçoit que même si c'est merveilleux d'être là, même si on sait que c'est la place où on veut être, on peut y arriver des fois, un petit peu, et c'est le petit PC. Mais lorsqu'on est en retraite, il nous arrive des fois d'avoir ces choses-là un peu plus prolongées. Et lorsqu'on sort d'une retraite, on est repris dans le truc. Alors là, notre maître dit, oui, mais pourquoi est-ce que tu dois arrêter de pratiquer lorsque tu n'es plus en retraite? Continue, amène-le chez toi. Ça ne coûte rien de plus, ramène-le. Et c'est pour ça qu'il a écrit des livres. Being Peace, Sérénité de l'instant, en tout cas il y a à peu près 70 titres, et puis il n'est pas le seul à écrire. Dalai Lama en écrit, Eckhart Tolle en écrit, en tout cas, tapez pleine conscience dans Amazon, puis là vous allez sortir. Donc c'est pas ça qui manque. Et qu'est-ce que tous ces livres-là nous apprennent à faire? Reviens à l'instant. Respire par le nez, marche avec tes pieds, ne marche plus avec ta tête. Très simple. Ils font un tas d'argent avec, puis c'est ça que je regrette. Pourquoi est-ce que j'ai pas pu en faire un peu? Alors donc, la pleine conscience, on commence par la petite dose, on respire par le nez, on marche sur nos pieds, on y trouve un plaisir, on se calme, on sourit. Et soudain, on s'aperçoit que, hey, la vie est belle. Il y a un beau soleil. Waouh! On regarde par-dessus, puis le ciel est bleu. Et il y a des petits nuages. Il y a des canards, il y a des oies, c'est tellement beau. Et tout d'un coup, on dit, waouh, pourquoi j'ai manqué tout ça? Et on cultive la joie, la nourriture, qui est notre, la joie qui est la nourriture pour notre pratique quotidienne. Et c'est cette joie, ce contact avec ce qui est beau et merveilleux, et qui se passe à chaque instant, et qu'on manque lorsqu'on n'est pas là. Notre pleine conscience qui nous permet de pouvoir être en contact avec tout ce qui est en train de se passer dans l'instant. Et dans l'instant, il y a beaucoup de miracles qui sont en train de se passer. Et en revenant à l'instant, en étant là un peu plus conscient, ça nous permet d'être en contact avec tous ces merveilleux miracles. Et ces merveilleux miracles nous nourrissent et nous renforcent. Et lorsqu'on est renforcé, lorsqu'on est nourri, on a de la gratitude. Et cette gratitude aussi nous donne une joie qui est gratuite. Tout ce que nous recevons de tout l'univers tout entier, il n'y a personne qui est là pour nous dire « Hey, tu as souri, donne-moi $2 ». C'est complètement gratuit, c'est toujours là, c'est toujours. Et puis là, lorsqu'on le reconnaît, on a cette sensation de, ou bien ce feeling. C'est quoi la gratitude, comment on dirait? C'est, on se sent aimé, on se sent embrassé, tenu, soutenu par tout ce qu'il y a autour de nous. Alors c'est pour ça que j'ai mis hier, je nous ai rappelé que notre pratique, c'est la pratique de la joie. Une joie qui se nourrit par la gratitude, une gratitude qui fait encore augmenter, quadrupler, agrandir cette joie que tous nous procure déjà. Et je vais vous faire un aveu. C'est cette pratique que j'ai fait depuis, je ne compte plus les années, mais depuis que j'ai commencé ma pratique, j'avais 32 ans. Et à 32 ans, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai pu m'extasier et m'exclamer devant un arbre. Waouh! Triste, 32 ans, pour reconnaître comment un arbre pouvait être beau. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de cultiver cet émerveillement devant tout ce que je peux être en contact avec. Et j'ai découvert comment un lever de soleil pouvait être merveilleux. Parce que je l'ai vu une fois au village des Pruniers, 4h30 du matin. Le ciel était complètement noir, noir encre. Puis il fallait faire très attention pour ne pas trébucher, puis t'accrocher après les racines des arbres. Et là, je me suis assis en méditation devant ma tante. Et dans le temps, j'étais, en tout cas, ma tante était juste en bas de la hutte de Thaï, au village des Pruniers. Et ma tante était au village des Pruniers, dans le hameau du Haut. La hutte de Thaï, je sais ce que c'est. La hutte de Thaï donne sur une vallée. Et donc, c'est en flanc de colline. Alors, il y a juste une petite place qui était un peu plate à côté, puis c'est là que j'ai mis ma tente. Et 4h30 du matin, je me suis levé, j'ai mis mon coussin devant ma tente et j'ai commencé à méditer. Puis là, j'ai tout ce ciel noir autour. Tout d'un coup, un petit point orange. Puis là, ça grandit. Et puis, le noir commence à devenir gris. Et puis, vire en bleu foncé. Et ce petit point orange commence à s'élargir et à teinter tous les nuages. Et tout d'un coup, ça fait comme un... Et j'ai passé peut-être une demi-heure pour admirer ce lever de soleil. Et c'était le plus beau film que j'ai pu regarder là. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant le même temps, Thaï était dans sa hutte et regardait le même paysage. Et dans le Dharma Talk qui a suivi ce matin-là à 10 heures, c'est de ça qu'il a parlé. Alors ça reste dans mon cœur, ça reste en moi, et c'est un lever de soleil qui restera en moi toujours, et chaque fois que je suis quelque part dans le monde et que je regarde un lever de soleil, c'est cette chose-là qui revient en moi. Et à chaque fois que je peux le voir, cette joie et ce bonheur ne font que s'amplifier. Et j'appelle cela la cultivation. J'appelle cela the good word, cultivation, de la joie et du bonheur. La joie et le bonheur sont organiques et dépendamment de comment nous vivons, nous pouvons la renforcer, la rendre plus forte, plus solide, ou bien juste avoir un glimpse, ou bien puis là, ça s'en va. Et c'est pour ça que lorsque je parle de pratique, et mes amis demandent c'est quoi la pratique, ou bien je leur demande, quand ils me disent qu'ils pratiquent, qu'est-ce que tu pratiques? C'est quoi ta pratique? Et pour moi, la réponse est très simple. Je pratique la joie. Et c'est ma seule pratique. Parce que c'est cette pratique qui me permet de pouvoir pratiquer le retour chez moi, le retour à l'instant. Parce que je veux y aller. Et chaque fois que j'y vais, chaque fois que j'y retourne, je me sens merveilleusement bien. Et j'appelle cette pratique coming home. On l'a toutes déjà entendu. Mais cette pratique est devenue, pour moi, quelque chose qui est qui n'a plus du tout la même signification que lorsque je l'ai pratiqué il y a 20 ans. Et c'est aussi le nom que je donne à une méthode d'intervention. Je suis en train de travailler avec l'Université Avila pour offrir un programme pour les vétérans souffrant de PTSD, syndrome. Et ils s'aperçoivent que la pratique de pleine conscience n'est pas adaptée au PTSD parce que la méditation silencieuse, les flashbacks reviennent, ils deviennent fous. Alors l'idée, c'est de pouvoir leur offrir des moyens pour se créer ces petits, ces espaces à l'intérieur d'eux, ce refuge, cette place où ils peuvent revenir lorsqu'ils sont sollicités, lorsqu'ils sont pris avec ces flashbacks. Et c'est aussi ce que Dr. Lamar aime beaucoup, cette notion de coming home. Comment aménager quelque chose à l'intérieur de nous, une place qui est belle, qui est sécure, qui est supportante, qui est réconfortante, qui est nourrissante, une place où on veut retourner. Cette place qui est comme cette cabane faite en bois rond où il y a un gros foyer à l'intérieur avec un pot de bine de fèves au lard et une belle tarte. Alors la pratique coming home, on la connaît très bien parce que c'est toujours ce qu'on a pratiqué. Quand j'inspire, je retourne dans mon île intérieure chez moi. Il y a de très beaux arbres, etc. Et chacun de nous, nous pouvons nous aménager cette belle île intérieure. Et la pratique de la joie, la pratique du retour, la pratique de coming home, c'est de pouvoir s'aménager, c'est de pouvoir créer cette île intérieure où il est bon retourner. Cette place qui est sécuritaire et qui est toujours en nous, dans notre cœur, lorsque, quel que soit qui arrive dans notre vie, qu'on puisse y retourner, avoir un refuge. Et c'est cela mon dada maintenant, pour les vétérans et pour les soins de santé mentale. Je pense que ça suffit pour la retraite. Oui, non, non, oui. Et tout ce que nous faisons dans nos retraites, tout ce que nous faisons dans nos journées de pleine conscience, tout ce que nous faisons dans nos soirées, c'est de nous permettre, c'est de nous donner des outils pour nous arrêter, pour nous arrêter, pour pouvoir retourner dans cette île, pour pouvoir y faire le ménage, pour pouvoir y planter de nouvelles fleurs, pour pouvoir y aménager des beaux parcs, etc. J'ai presque pas envie de continuer. Parce que on est trop bien ici, c'est trop bien. Alors je pense que je vais vous inviter à revenir dans cette île avec une chanson. Je pense que nous avons... Je suis très heureux ici avec vous. Et je sais que c'est grâce à cette capacité que nous pouvons développer ensemble à demeurer et rester dans l'instant, ici et maintenant. Et nous avons cette capacité. Mais c'est une capacité qui est organique et c'est une capacité que nous devons développer. Thay n'a jamais arrêté de pratiquer. Le Bouddha n'a jamais arrêté de pratiquer. Même après son éveil. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler et nous encourager à faire ensemble. Avec la pratique du son de la cloche, corps, parole et esprit en parfaite harmonie, j'envoie mon cœur avec le son de cette cloche, que tout ce qui m'entend sorte de l'oubli et transcende toute anxiété et douleur. C'est une grande pratique. Et lorsque nous pouvons réciter cela, et que ce n'est pas juste des mots, mais que c'est une réalisation, ou que c'est une pratique qui devient une réalisation, et qu'on est vraiment corps, parole et esprit en harmonie. Réaliser ce premier miracle de la pleine conscience, le miracle de l'unicité du corps et de l'esprit. Et le maître de la cloche a cette pratique, détient cette pratique et transmet cette pratique avec le son de la cloche qu'il envoie. Et lorsqu'on entend le son de la cloche, et qu'on pratique, on arrête ce qu'on est en train de faire. Et on sait qu'on ne peut pas juste écouter et entendre le son de la cloche pleinement, recevoir l'amour qui est envoyé, si nous ne sommes pas là, ou bien si nous sommes là à moitié, ou au quart, ou au dixième, ou au centième de notre présence. En fait, on reçoit toujours quelque chose. Mais ce qui est dangereux avec toutes les pratiques, et encore là, c'est une question que je me pose à chaque fois. Qu'est-ce que je suis en train de pratiquer? On peut avoir le cœur ouvert et recevoir l'amour que cette chose-là nous amène, que ce son-là nous éveille et amène en nous. Mais on peut aussi arroser nos graines d'irritation ou d'impatience. Ce sont des cloches qui m'empêchent de pouvoir dire ce que je devais dire, ce que je voulais dire. Et c'est correct. Mais c'est de pouvoir identifier cette chose-là. Ah. Et c'est ça la pratique de la pleine conscience. C'est de pouvoir s'arrêter. C'est de pouvoir être présent. C'est de pouvoir identifier tout ce qui est en train de se passer à l'instant. Lorsqu'on entend le son de la cloche et qu'on voit des personnes sourire, d'un sourire léger, on sait, she has it, elle a. Mais lorsque je vois aussi, et puis je me compte là-dedans, quand est-ce que ça va finir? Trois respirations, je continue. C'est une pratique, et c'est correct, et c'est parfait. Mais la pratique, ce n'est pas juste de s'arrêter physiquement. La pratique, ce n'est pas juste de ne pas parler. La pratique, c'est de pouvoir identifier. Identifier qu'est-ce qui est en train de se passer là. Et de réaliser, ou bien de voir comment, où on est dans cette pratique. De la petite conscience, d'un peu de conscience. Pour pouvoir éventuellement, ou bien aspirer à, ou bien cheminer vers cette pleine conscience. Et pouvoir nous alimenter avec les joies de l'instant, c'est la nourriture qui nous permet de pouvoir faire ces choses-là, de pouvoir cultiver, agrandir, renforcer cette petite conscience pour nous permettre de pouvoir faire le travail d'identification. Et on sait que même si on a pratiqué longtemps, beaucoup, bien, et qu'on peut être dans cet état, waouh, pendant une retraite, on sait que lorsqu'on sort de la retraite, la vie nous attend là. Et on va tomber dans ces choses-là. J'ai parlé avec Manon. Et je vais vous faire un aveu. Très facile pour moi d'être ici et puis de vous parler. Mais avez-vous des travaux de construction près de chez vous? Vous souvenez-vous, il y a 2 mois, lorsque j'avais parlé des 7 facteurs d'éveil, je nous ai raccroché ou bien je nous ai donné un petit exemple de pratique. Lorsque nous essayons de pratiquer la méditation assise et que le téléphone sonne ou que notre voisin met de la musique, qu'est-ce que ça fait en nous? Juste ce son, qui est juste une fréquence, puis qui touche nos oreilles et qui se transforme en idée, en scénario, en toutes ces choses-là. Et j'ai pu vivre l'expérience, en fait, dans mon condo, avec les travaux qu'il y a à côté. Il commence à 5 heures du matin. Et ça se poursuit jusqu'à 10 heures, 11 heures du soir. En tout cas, je n'ai pas besoin de vous les décrire. Et ça nous pénètre. Ça me fâche. Et j'ai écrit un mail à l'association du condo. C'est quoi les heures où ils sont autorisés à faire ça? Et puis là, ben, ils sont en train de faire des choses parce que j'imagine qu'il doit y avoir des règlements qui disent que tu peux faire tant de bruit, puis pas plus que tant de bruit, puis de telle heure à telle heure. Mais c'est de regarder toutes ces choses-là. Comment je m'imagine que mon Bouddha, ou bien le Bouddha idéal, pourrait juste entendre ça, puis l'entendre comme un chant d'oiseau. Je peux vous dire que je ne suis pas là, pas en tout. Mais pourquoi est-ce que un bruit de machine doit tant me déranger? Et je sais que c'est parfait ici, c'est très beau dans ce site, mais partout où on va aller, puis là je m'apprête à aller en Chine. Et Diane m'a parlé de ses expériences en Chine. Alors je sais que je vais être, et ça va être ma pratique dans la vie, et ça va être aussi de très belles occasions pour moi de pouvoir me regarder si je m'en souviens et si je ne me laisse pas entraîner dans mes idées et dans mes réactions. Et c'est pour ça que la première phase de la pratique est la phase de lune de miel. Et le fun, rester là, sourire, avoir des copains qui sont plaisants, aimants, etc. Et puis là, on les aime tellement qu'on veut se joindre à la sangha. Puis là, on dit, hey, j'ai trouvé ma gang. Bonne nouvelle. 2 ans après, la chicane. Ça se passe aussi dans nos sanghas, vous savez. Alors, toutes les lunes de miel, toutes les îles intérieures sont merveilleuses. Mais elles sont impermanentes. Et s'accrocher à cela, vouloir le garder comme c'est, on est voué à... On pense qu'en venant ici, on a trouvé le bonheur. On pense que c'est ici qu'on doit être. Et on veut que ça soit comme ça tout le temps. Ça ne peut pas l'être. Et ça ne le sera pas. Et c'est pour ça que cette réalité cette noble vérité est toujours là. Et c'est pour ça que il ne nous suffit pas juste de pratiquer le petit C, et même qui va devenir un grand PC. Si on ne peut pas regarder le bonheur et la joie pour voir aussi que c'est la même réalité, la même vérité que la souffrance. Et c'est maintenant avec ça que je voudrais que nous travaillions ensemble. Alors je suis désolé de vous sortir de votre paradis et pour vous ramener ici. Parce que c'est ça la réalité. Et cette petite chose que nous avons pratiquée depuis tout ce temps, c'est peut-être pour nous donner un outil. C'est peut-être pour nous donner des façons de faire pour pouvoir dealer avec ça. Et puis il y a plusieurs façons de dealer avec ça. Il y a encore là, retourner avec ce PC, se renfermer dans son truc. Mais on sait qu'aussitôt qu'on va sortir de cet état-là, on va retomber ici. Et je ne sais pas comment Mihail l'a appris dans son cours de maîtrise en bouddhisme, mais ça se peut qu'il est appelé par samsara. Et c'est cette roue infernale de la souffrance et de la naissance et de la mort. Et on retombe toujours ici. Et la quête du Bouddha et l'enseignement du Bouddha, c'est pour briser ce cercle. C'est pour transformer cet état afin de parvenir à l'état de la non-souffrance. Et être dans cet état sans retomber dans l'autre, et je pense que c'est cette place qui s'appelle le nirvana, la rive de la non-souffrance, le paradis, la terre pure. Et pour faire ce travail, le Bouddha a passé 40 ans ou 50 ans à nous enseigner 84 000 façons de faire pour pouvoir faire ce travail. Et tous les maîtres qui lui ont suivi se sont ingéniés à trouver de nouvelles méthodes pour faire ceci. Je ne sais pas combien d'autres portes notre maître a ouvert et je ne sais pas comment. Combien d'autres ça nous prend? On revient à la même chose. Comment passer de cet état à cet état? Et c'est aussi l'enseignement du Bouddha, le dernier enseignement du Bouddha. En 40 ans, je n'ai enseigné qu'une seule chose. La souffrance et la non-souffrance. Le chemin, le noble chemin octuple. Les huit nobles vérités, ou en tout cas, Eightfold Path, c'est plus facile à dire. Les huit nobles vérités, donc les huit nobles pratiques, les huit pratiques justes, c'est l'enseignement du Bouddha pour comment passer de l'une rive à l'autre. Et c'est ce que nous avons appris il y a 2 ans. Commence avec la vision juste. La vision juste qui est ceci est parce que cela est. Ceci n'est pas parce que cela n'est pas. This is because that is. La vision juste qui est l'inter-être. Et qui est aussi l'enseignement de la Prajnaparamita. Et qui est aussi l'enseignement du Sutra du Diamant. Ceci est parce que cela est. La souffrance est parce qu'il y a des causes à la souffrance. S'il n'y a pas ces causes-là, si une des conditions manque, il n'y a plus de souffrance. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la souffrance est faite de ce qui n'est pas souffrance. Et tout ce qui n'est pas souffrance contribue à faire cette souffrance. Alors le bonheur d'aujourd'hui, c'est ce qui conduit à la souffrance de demain. La grande joie d'accueillir une petite fille. Mais la petite fille va grandir et elle ne sera pas toujours toute petite. Et elle va devenir une teenager. Ouch. Et puis si on se souvient que tout est impermanent, on respire et on s'assoit et on prie le ciel que l'impermanence fasse son œuvre vite, s'il vous plaît. Et on prie, Seigneur, s'il vous plaît, donnez-moi la patience. Tout de suite, right there. Dans la vision juste, l'inter-être, l'acceptation, l'impermanence, le nirvana, le chemin octuple, les quatre nobles vérités ont été étudiées, pratiquées, comprises par notre maître. Et notre maître qui nous rappelle que les quatre nobles vérités ne peuvent pas être... Les quatre nobles vérités, c'est ça que je le viens de dire, sont nobles parce qu'elles comportent en elles la clé de la libération. La souffrance, selon l'enseignement du Bouddha, est noble parce qu'elle nous permet de pouvoir trouver la clé de la non-souffrance. Et Thay aussi nous encourage à pratiquer. C'est quelque chose qui est tellement simple à dire, tellement simple que you get over with it. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dedans? Et c'est l'une des raisons qui fait qu'on est encore ici, dans ce monde de souffrance, et qu'on n'a pas encore pu trouver cette clé qui nous amène vers la non-souffrance. Alors c'est ces contacts avec le ciel bleu. Ce sont des band-aids. Sont une petite dose de vitamines, un peu d'alimentation pour nous permettre de faire le vrai travail, s'asseoir avec notre souffrance, rester avec, en faire une amie, afin qu'elle se révèle à nous, afin qu'elle puisse nous dire d'où elle vient et de quoi elle est faite, pour pouvoir la comprendre. Et c'est cela la première noble vérité. S'asseoir avec sa souffrance. This is suffering. Je reste avec cette souffrance. Et je ne la quitte pas avant de l'avoir totalement compris. C'est complètement contraire à notre façon de faire. On est branché à échapper, à fuir la souffrance, à nous distancer de l'inconfort, à rechercher la sécurité, le confort. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas pratiquer la première vérité. Et si nous ne pouvons pas pratiquer la première, elle ne peut pas être noble. Et si elle n'est pas noble, elle ne peut pas nous indiquer la voie de la non-souffrance. Vous souvenez-vous, les cinq obstacles à la pratique, la recherche du confort et l'attachement, et la fuite de la souffrance. On passe très vite en travers de la première. Et le travail, c'est de pouvoir être avec la première noble vérité pour pouvoir en découvrir les sources et les racines. Et c'est ça qui va nous permettre de pratiquer le deuxième et d'arriver au troisième. Et ça a pris au Bouddha 10 000 vies pour le réaliser. Ce n'est pas son assise de 48 heures ou 72 heures. C'est sa pratique de 10 000 vies. Et la question que je me demande toujours, combien est-ce qu'il m'en reste à faire? Peut-être 99 000, mais une vie à la fois. une respiration à la fois, un pas à la fois, dans le chemin, avec des amis. Je ne voudrais surtout pas vous décourager. Et là, je pense que c'est ça que j'ai fait. Mais c'est parce que vous êtes mes amis. Et c'est parce que je sais que vous pouvez le prendre. Parce que je vous ai écouté. Je vous ai entendu. Vous avez tous très bien compris les trois joyaux. Alors parce que vous avez compris les trois joyaux, vous avez un refuge. Vous avez cette île intérieure. Vous avez une place où vous pouvez toujours retourner. Retourner pour pouvoir vous refaire vos forces et vos armes. Et cette intervention de la dernière demi-heure était seulement pour vous rappeler que lorsque vous sortirez de cette île, la vraie vie nous attend. Et on ne peut pas passer sa vie à se réfugier. On veut sortir de notre maison, même si elle est confortable et sécuritaire. Et on revient pour se refaire nos forces, on revient pour s'équiper, pour pouvoir dealer avec. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ces monstres seront toujours là, à l'extérieur. C'est comme les trois petits cochons et le loup. Et on ne peut pas complètement s'enfermer et s'encabaner, ça ne peut pas marcher. On peut le faire dans une retraite de 10 jours. Pratiquer les 4 niveaux de concentration ou les 9 niveaux de je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Et c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que le Bouddha nous a enseigné de faire. Et c'est ce que je nous invite à considérer. En attendant, on est ici en sécurité. On aura de la bonne nourriture, le lit est très confortable. Profitons-en pour nous refaire ses forces, profitons-en pour nous nourrir de bonheur et de joie, afin de pouvoir bien nous équiper pour ce qui va nous attendre lundi.